Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.
Amen.
Ça va? Super, je vais attendre qu'il descende et après je vais m'installer là-haut. Je tenais peut-être à commencer mon intervention par remercier vraiment les organisateurs. Vraiment, je suis très touché par le merveilleux accueil. Vraiment, je voyage partout dans le monde, j'ai vraiment beaucoup de grâce, je rentre de Cuba et d'être ouais, très touché de votre affection, très touché de qui vous êtes et de ce que Dieu fait ici. J'ai qu'une hâte, c'est d'être au ciel. Ça vous fait bizarre hein, qu'un petit jeune dise ça, pas de pensée de suicide, vous inquiétez pas. Mais vraiment, imaginez, on sera au ciel. Non, ça vous... Bon, ça va, il y a quelques sourires. Mais ça sera extraordinaire, on va faire la fête. Je veux dire, tous ensemble. Je veux dire, vraiment, fini les problèmes, fini tout. Vraiment, on se prendra plus la tête pour rien du tout. Et on sera face à face avec Jésus. Oh, ça va être extraordinaire. Vivement. Vivement. Et en attendant, amenons un maximum de gens avec nous. Amenons un maximum de gens avec nous. Vraiment, que ce soit notre préoccupation première. Vraiment, j'ai eu la chance de créer un mouvement qui s'appelle Bouge ta ville. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement-là. Ah, vraiment, et mon cœur, vraiment, c'est vraiment un cœur d'annoncer l'Évangile. D'annoncer l'Évangile au plus grand nombre. Et c'est vraiment mon souci premier. C'est de voir des hommes et des femmes être sauvés. C'est vraiment mon souci. Et j'aimerais... peut-être avant d'attaquer mon message, nous donner l'opportunité de prier pour cette région. Si vous êtes d'accord. J'aimerais qu'on puisse prier pour cette région. Que cette salle soit bien trop petite. Que cette salle soit bien trop petite. Que nos familles soient sauvées. Que nos voisins soient sauvés. Que réellement nos proches soient sauvés. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on... Je sais que je vous bouscule un peu, je ne veux pas vous embêter trop. Mais j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Prie pour mon voisin, prie pour les gens autour de nous. Je peux vous demander de vous lever? Puis on va prier ensemble, vraiment pour nos familles, nos voisins. Vraiment prier ensemble. Seigneur, vraiment merci. Merci pour l'extrême grâce que nous avons de te connaître. C'est une grande grâce. C'est un grand privilège que de te connaître. Un grand privilège que d'être tes enfants. Seigneur, vraiment, nous voulons te louer, t'adorer. Seigneur, de ce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Et nous te prions et nous te supplions de venir sauver, Seigneur, vraiment nos voisins, nos familles. Seigneur, vraiment, viens sauver notre entourage. Toi, tu connais, Seigneur, mes amis qui ne te connaissent pas. Je pense à Florian, à Christelle, Seigneur. Je pense à Oriana, Seigneur, à Jeanne. Seigneur, tous ces jeunes gens que j'aime sont des gens que j'aime. Je te supplie de les sauver. Moi, je peux essayer de briller, je peux essayer de témoigner, mais et toi seul peux les sauver, toi seul peux les toucher. Et je prie, Père, pour un réveil, Seigneur Jésus, ici, Seigneur, vraiment un réveil dans le nord de l'Alsace, vraiment qu'il se répande jusqu'en Lorraine, vraiment un réveil, je prie, Seigneur, pour des hommes et des femmes sauvés. Je prie, Père, Seigneur Jésus, que tu puisses nous utiliser, les uns et les autres, pour témoigner de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Je m'installe un petit peu. J'ai ramené quelques petits objets. Tout va bien. Tout va bien. Il y a quelques années, je suis parti aux États-Unis et j'ai eu la chance d'être invité lors d'un concert avec Chris Tomlin, Toby Mac, Matt Redman, Israel Houghton, à une conférence organisée par Louis Palot, et d'être invité en VIP. C'était un concert à Central Park, il y avait 60 000 personnes. Et j'ai eu la chance d'être au premier rang. Et non seulement j'étais au premier rang, mais j'avais accès aux loges où il y avait à manger à volonté. Alléluia. Alléluia. C'est que tous les Alsaciens me comprennent. Alléluia. vraiment, c'était un moment grandiose. Vraiment, j'ai profité vraiment de la bonne musique, l'évangile annoncé. C'est vraiment, je pense, c'était un des moments les plus dingues de ma vie. Sauf que mon avion partait ce soir-là. Et donc, je ne pouvais pas rester jusqu'à la fin du concert. Et j'avais pas envie de partir. Donc, je suis resté le maximum. L'aéroport JFK est loin de Central Park. Ceux qui ont été à New York, vous dites, ce gars, il est vraiment fou. Mais normalement, il faut être 3 heures avant que l'avion décolle. 2 heures avant, j'étais encore à Central Park. Ceux qui connaissent vraiment, vous me prenez vraiment pour un fou maintenant. Littéralement. Mais je voulais pas partir. Et à un moment donné, je peux pas l'expliquer, mais à un moment donné, je sais, c'est maintenant ou alors t'auras pas ton avion. Il y a un moment clé où tout d'un coup, j'ai senti que c'était là. Donc tout d'un coup, je marche quand même relativement vite, je monte dans un bus et le bus ne part pas. Le bus ne part pas. Tout d'un coup, le chauffeur se lève et dit « Notre bus ne part que dans 30 minutes. Oh. » Alors je descends dans le métro, je cours, j'arrive. Le métro ne vient pas. Et je commence à suer, je commence à me crisper. Et tout d'un coup, il y a un métro express qui arrive. Et le métro express et le métro pas express. Et un jour, tu vas à New York, c'est important de savoir ça. Métro express arrive, Dieu soit loué, alléluia. Je rentre dans le métro express et je suis content. Mais au même moment, il y a un métro pas express qui arrive. Au même moment, le métro pas express allait plus vite que le métro express. Je commençais à pleurer. Moi, je suis insensible, hein, pardonnez-moi. Mais je commence à pleurer. Je commence à être en train de me dire que je suis en train de rater la fin du concert le plus extraordinaire de ma vie et en train de rater mon avion. Et c'est marrant parce que t'es dans le métro, tout le monde va bien. Et toi, t'es en panique. Et alors que je suis en panique, j'entends une voix au fond de moi qui me dit « Ne t'inquiète pas. » Tu rigoles ou quoi ? Je ne veux pas s'inquiéter, t'as pas vu l'heure ? Et sincèrement, je me suis inquiété, inquiété de ouf. Le stress, la panique, et je devais changer de métro. Et alors qu'on arrive près de l'arrêt, je me prépare à courir. Sportif, alléluia. Je suis prêt. Starting block, les portes s'ouvrent, je cours. Je cours littéralement 5 minutes. Quand tu cours 5 minutes d'affilée, c'est pas mal. D'accord ? Tu cours loin, d'accord ? 5 minutes. Pour me rendre compte que j'ai couru en mauvais sens. C'est pas gentil de rigoler. C'est vraiment pas gentil. À ce moment-là, je suis en panique. Littéralement, je suis en panique. Je comprends pas, je pleure encore plus. Je reviens, tout d'un coup, le métro vient pas finalement. Je prends un autre métro. Finalement, j'arrive à la sortie du métro. Quelqu'un m'attend avec une fourgonnette. Il a conduit. Brooklyn style, je peux pas vous expliquer comment il a conduit, sinon vous me retiriez le micro. Mais il a couru vite pour que j'aie mon avion. Il roule et tout d'un coup il arrive devant l'aéroport et donc on sort et j'ouvre le coffre, je prends les bagages, je sors les bagages et à ce moment-là j'entends quelqu'un dire Thibaut, mon pasteur. Et donc je me retourne. Il y a là une hôtesse de l'air avec tout l'équipage qui dit « C'est mon pasteur, c'est mon pasteur !» C'est une internaute qui regarde la porte ouverte finalement en ligne et qui dit « C'est mon pasteur, oh mon pasteur !» Me prend dans ses bras et me dit « Regarde, ça c'est le petit lac, ça c'est... » Comment être un bon pasteur dans ces moments-là? Difficile. Donc j'ai essayé d'être gentil, poli, tout ça. Mais de me barrer. Vraiment, c'était dur. Je regarderai les vidéos aussi, j'en sais rien, comment j'étais. Mais je cours. Ils veulent, au départ, ils ne veulent pas me laisser passer. Finalement, ils me laissent passer, je cours. Mais littéralement, et peut-être tu ne me crois pas, mais comme dans les films, je suis rentré, la porte s'est fermée. Et en rentrant, tout d'un coup, toute la pression retombe, en fait. Tout le stress, toute la panique retombe. Et je me dis, je vais aller m'asseoir, je vais enlever mes chaussures, je vais m'endormir. Vraiment, je me dis ça en marchant. Et au moment où j'arrive à ma place, je vois qu'il y a un chewing-gum écrasé, juste devant ma place, tout frais. Je sais pas si ça t'arrive, mais c'était la goutte d'eau qui fait déborder les vannes. Je me mets à pleurer. Et je fais juste une prière. J'ai dit, Dieu, fais-moi oublier ce moment. Assomme-moi, je veux oublier ce moment. À ce moment-là, le test de l'air arrive. Monsieur J.R. Thibault, merci de prendre toutes vos affaires et de me suivre en première classe. Écoute-moi bien. Le test de l'air que j'ai croisé, appeler ses collègues pour qu'ils puissent me mettre en première classe. Mais comment tomber sur la seule personne que je connais à New York, hôtesse de l'air? Ça veut dire que Dieu a utilisé les ralentis de métro, Dieu a utilisé même mes erreurs pour que j'arrive exactement au bon moment, au bon endroit. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des moments où tu ne comprends rien. Il y a des moments où tu as l'impression de faire n'importe quoi. Il y a des moments de souffrance, des moments de peur. Il y a des moments incompréhensibles où tu as envie de dire, Dieu, t'es où dans tout ça? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais vous parler de la souffrance. Alors vous allez me dire, c'est pas une grande souffrance. Je vous l'accorde. Mais je crois que ce principe est le même. Et vous allez le découvrir, la Bible nous l'enseigne. J'aimerais qu'on puisse découvrir ça. Je fais une dernière parenthèse et on va attaquer la parole de Dieu. Une dernière parenthèse. La thématique de ce week-end, c'est Amazing Grace. Ça fait des années que j'enseigne sur Amazing Grace. Des années, je sais pas, j'ai dû faire 50 messages sur Amazing Grace. Vraiment. Ce matin, quelqu'un me disait, Thibaut, c'est dommage, t'as pas assez parlé de la grâce. C'est pour moi des fois compliqué, parce que j'ai des fois peur que vous entendez tellement des fois les mêmes messages sur la grâce, qu'on en oublie la richesse de la grâce. Cette grâce qui nous amène vers le Saint-Esprit, cette grâce qui nous parle de la souffrance. Et j'aimerais, c'est pour ça que j'ai eu à cœur en tout cas, de vous amener des messages très différents de ce que vous avez peut-être l'habitude d'entendre. Encore une fois, c'est pas du tout pour dénigrer, j'ai envie de dire, le profond, le message de la grâce dans toute sa substance. Mais je suis convaincu que vous l'entendez régulièrement. J'aimerais juste, voilà, encore une fois, vous permettre d'élargir votre vision de la grâce, si vous êtes d'accord. Ça va? Merci pour les oui, parce que j'avais pas d'autres messages en stock. Là. D'où vient la grâce? Genèse 3, versets 16 à 19. Genèse 3, versets 16 à 19. La souffrance, finalement, c'est la conséquence du péché. Il n'y avait pas de souffrance avant que Adam et Ève se rebellent contre Dieu. Et à ce moment-là, va apparaître la souffrance. Et j'aimerais que tu puisses voir, finalement, l'apparition de la souffrance dans le monde. Genèse 3, versets 16 à 19. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et à force de peine, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. » La salade, elle est venue de là, hein. On n'a jamais été destiné pour manger l'herbe des champs. Bref, faites ce que vous voulez. Excusez-moi, je dis, oh, il faut que je sois sérieux un peu. Verset 19. C'était la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Finalement, la souffrance est apparue dans le monde suite à notre rébellion. Et elle a touché toutes les sphères de nos vies, mais de la Terre. La Terre a été maudite. Finalement, notre planète a subi quelque chose. Et finalement, la souffrance est arrivée sur notre planète à cause de notre péché. Mais regarde ce que la Bible dit, Lamentations 3, versets 31 à 33. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, écoute bien, mais lorsqu'il afflige, Il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. C'est le même mot que Amazing Grace, c'est exactement le même mot. Ça veut dire que l'affliction que Dieu produit, c'est le fruit de sa grâce infinie. Alors certains d'entre vous, vous ne comprenez pas, et je vous comprends. Je vous comprends parce que on a du mal à comprendre que la souffrance est une chose que Dieu permet. On a du mal à comprendre que Dieu, le Dieu bon, le Dieu d'amour que nous connaissons, est celui qui permet la souffrance. Pourtant, laissez-moi réfléchir avec vous. La première chose, c'est ce verset, c'est la première cause de souffrance, c'est quand la femme enfantera. Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. La souffrance mène toujours là à la vie. La souffrance est toujours quelque chose que Dieu permet, mais pour que la vie rejaillisse. Je ne vous ai pas convaincu. J'ai une question. Pourquoi Dieu va faire souffrir Adam et Ève? Attends. Dieu, tu t'as dit à Adam et Ève que si vous mangez du fruit, vous mourrez. Non, mais ça veut dire que Adam et Ève doivent mourir. Dieu a dit, vous mangez, vous mourrez. Mais Dieu ne les a pas fait mourir tout de suite. Mais il a permis la souffrance. Pourquoi ? Pour leur donner une deuxième chance. Les règles que Dieu avait données, tu manges, tu meurs. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. On a péché souvent. Est-ce qu'on est mort ? On est encore vivant. Pourquoi on est vivant? Parce que Dieu veut nous donner une autre chance. Et donc finalement, excusez-moi, c'est injuste. C'est injuste si on est encore vivant. Je vais plus loin. C.S. Lewis, vous connaissez C.S. Lewis? C.S. Lewis dit qu'on ne devrait pas se poser la question « Pourquoi je souffre tellement ?» Il a dit, on devrait se poser la question, pourquoi je souffre si peu avec tous les péchés que je fais? C'est intéressant. Normalement, je mérite la mort. Je mérite d'aller en enfer à cause de tous mes péchés. Je mérite ça. Mais dans sa grâce, il me donne la vie, il me donne la capacité de changer, mais il permet qu'il y ait des conséquences pour me faire réfléchir. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Ça vous rappelle quelque chose? Vos enfants, vous les affligez, vous leur mettez des corrections. Pourquoi? Pour leur permettre de changer, de progresser. Finalement, la souffrance que vous leur infligez, et je vous promets une chose pour un enfant, quand vous le corrigez, quand vous le punissez, quand vous le privez de dessert, Seigneur, wow, ça c'est vraiment horrible. Mais, je veux dire, c'est horrible pour lui. Il ne comprend pas. Il a l'impression que vous êtes les pires parents. Parce qu'il ne comprend pas le but recherché. Pourtant, dans votre amour, parce que vous aimez vos enfants, vous les corrigez. Et finalement, ils vivent un temps de souffrance dans le but de leur permettre de progresser. Est-ce que ça va? Je vais aller plus loin. J'ai ramené une bougie. Voilà, j'ai ramené une bougie. Ça va, vous la voyez? La bougie, elle est belle. Mais si je rapproche ma main... Ah! Là, ça fait mal. Elle est belle? Ah! Là, ça fait mal. La souffrance est une bénédiction pour moi, là. N'est-ce pas? Parce que si je ne ressentais pas la souffrance, je me brûlerais. Mais parce que la souffrance est là pour m'avertir, de dire qu'il ne faut pas que tu mettes ta main là. La souffrance, finalement, est un mégaphone pour nous protéger. Si Dieu permet la souffrance, c'est parce qu'il aimerait nous dire quelque chose, nous protéger quelque chose de plus grave. Et finalement, la souffrance, elle est pour nous dire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas manger n'importe comment. Il ne faut pas rouler n'importe comment. La souffrance des policiers qui nous mettent une amende, rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Parce que cette souffrance est là pour t'aider à changer. Elle veut te parler, la souffrance. Elle aimerait nous permettre de comprendre quelque chose. C'est un peu comme si tu allais voir le médecin en disant « j'ai un problème au cœur ». Et que le médecin dise « ok, mais il faut opérer ». Et tu dises « non, je souffre déjà assez, vous n'allez pas m'ouvrir en plus, finalement, le corps. Ah non, je ne veux pas souffrir ». Pourtant, la souffrance est le seul moyen de te guérir. Ça va ? Là, je sens que vous êtes un peu mieux. D'accord ? Je sens que vous commencez à comprendre ce que je dis. Dieu merci. J'ai peur que souvent, on a une mauvaise image de la souffrance. On a une très mauvaise image de la souffrance. Et j'aime pas souffrir, je vous rassure. Je veux dire, j'ai grandi, je veux dire, régulièrement, ma mère allait à l'hôpital psychiatrique, on m'amenait dans des foyers. Je veux dire, j'ai souffert. Peut-être pas autant que toi, mais j'ai eu mon lot de souffrance. Mais ce que je peux dire, j'ai grandi sans mon père, mais ce que je peux dire, c'est que Dieu a su changer le mal au bien. Il a su changer le mal au bien. Il a su intervenir, finalement, dans ma souffrance. Et soyons honnêtes, c'est souvent quand on souffre qu'on prie. C'est souvent quand c'est difficile qu'on se rapproche de Dieu, n'est-ce pas ? Souvent, la souffrance, c'est ce qui nous ramène à Dieu. Finalement, la souffrance, c'est comme si Dieu disait « reviens à moi, tu n'y arriveras pas tout seul. Je permets des épines pour que tu comptes sur moi. Parce que par toi-même, tu n'y arriveras pas. » Ce Dieu plein d'amour qui veut nous attirer à lui parce qu'il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Et une dernière petite illustration avant d'attaquer le deuxième point de ma prédication. Les dames, les cuisinières, j'aime bien faire des gâteaux aussi. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que vous utilisez la farine. La farine, vous avez déjà goûté la farine ? C'est pas très bon, hein ? Enfin, je sais pas, peut-être vous aimez ça. Moi, je trouve pas ça très bon. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous utilisez de la levure. Je sais pas si vous goûtez souvent de la levure, mais moi, j'aime pas trop, hein ? C'est pas bon ! Non, et les œufs ? Enfin, je sais qu'il y a des gens bizarres qui aiment gober les œufs.
Ah oui.
J'aimerais prier pour vous. Vraiment, à la fin, vous êtes là. Vraiment, je suis inquiet pour vous. Merci de ton honnêteté. Mais je me dis, avec ces foutus ingrédients pas bons, vous arrivez à m'éblouir avec des gâteaux extraordinaires. Comment c'est possible ? Comment des choses qui paraissent pas bonnes, vous en faites quelque chose de bon ? Et le pire dans tout ça, c'est que vous fouettez tout ça. Il y a beaucoup de violence dans tout ça. Mais de ces ingrédients pas bons, de ces coups de fouet, va sortir quelque chose de bon. Enfin, dans la mesure où vous acceptez de mettre les ingrédients dans le four. Dans la mesure où vous acceptez de prendre ces ingrédients pas bons et de les relâcher dans le four. Et alors la puissance de la chaleur va bouleverser ces ingrédients qui de base paraissent pas très bons et en faire quelque chose d'excellent. De la même manière, Dieu a permis des choses difficiles dans nos vies, toutes sortes d'ingrédients compliqués. Oui, de temps en temps, il y a un peu de sucre, Dieu merci. De temps en temps, il y a un peu de chocolat. Alléluia. Dieu merci. Mais il y a aussi des ingrédients pas bons. Souvent, on a eu l'impression d'être comme fouetté, aller dans tous les sens. Excusez-moi. Si tu mets ta vie avec tous ces ingrédients-là, toute la souffrance, toute la difficulté, toute la galère, entre les mains de Dieu, et que tu le laisses faire, il va changer le mal en bien. Je te le promets. Je te promets qu'il est ce Dieu qui nous aime et qui prend plaisir à changer le mal en bien. Il n'est pas le Dieu qui prend plaisir à ta souffrance, pas du tout. Avec beaucoup d'amour et de compassion, il te regarde. Et s'il permet la souffrance dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire. C'est parce qu'il veut te dire quelque chose, il veut t'amener quelque part. Il veut réellement faire ressortir quelque chose de bon. La Bible dit que souvent nos souffrances sont là pour nous former et nous apprendre à avoir de la compassion pour les autres. C'est souvent seulement quand on souffre qu'on découvre finalement que la souffrance des autres, ce n'est pas juste du blabla. Souvent, quand on ne souffre pas, on manque de compassion, n'est-ce pas? Et la souffrance entre les mains de Dieu est toujours quelque chose où il y a quelque chose de bon qui va ressortir. J'aimerais inviter une de mes petites sœurs, Shena, qui va, je l'appelle Dudu, donc il faut que je m'appuie. Elle va venir. Cette jeune fille, elle est timide, hein? Mais avec beaucoup de courage, j'aimerais vous partager son témoignage. Je ne sais pas s'il y a un micro dans le coin. Derrière moi, ouais, super. Trop bien. Avec beaucoup de courage, elle veut donner son témoignage de ce que Dieu a fait. Oui, elle a vécu la souffrance et vous allez l'entendre. Mais Dieu est fidèle. Vas-y.
Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Shena, j'ai 16 ans. Alors moi j'ai vécu dans une famille avec un père non chrétien qui a grandi dans un milieu musulman. Ma mère était chrétienne et en fait mon père c'était un homme violent. À l'âge de 8 ans, j'ai vécu des attouchements sexuels par la part de mon père. Il a fait des choses vraiment pas bien à moi et ma mère et ma sœur. Et j'ai perdu confiance en moi. Je me sentais sale et je me disais, mais en fait, Shena, pourquoi tu vis? T'es sale en fait. Se rendre compte de cette année, bah, Dieu m'a touchée, il m'a aidée. J'ai pardonné mon père, on va dire ça comme ça, et j'ai mis cette histoire de côté et je me suis dit, en fait, Shena, donne-toi à Dieu, vraiment laisse tout ça derrière toi parce que t'as vraiment beaucoup de choses à vivre encore et que, en fait, c'est ton père, donc donne-lui tout et du coup, vous encouragez à, même si vous vivez des choses compliquées dans vos vies, bah, ne le lâchez pas parce qu'il est toujours là avec vous. Et malgré les épreuves de la vie, bah, il veut être là pour vous et il veut vous encourager. Voilà.
Waouh, je suis tellement fier de toi. Tellement de courage. Tellement de courage. Mes amis, nous sommes dans la vraie vie. Tellement de souffrance. Tellement de souffrance. Tellement de gens qui souffrent. Tellement de gens qui souffrent. Et nous avons un Dieu plein de compassion. Un Dieu qui ne nous a pas abandonnés. Un Dieu qui on ne comprend pas toujours tout. Mais un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est bon et qui sait changer le mal en bien. Qui sait prendre des ingrédients qui nous paraissent tellement mauvais. Il aimerait changer ça pour produire quelque chose de bon dans nos vies. Si seulement on pouvait lui confier. Si seulement, au lieu de juste fuir la souffrance, de vouloir la mettre sous le tapis, non. Face à la souffrance, reconnais ta souffrance et donne-la à Dieu. Relâche entre les mains de Dieu. Fais-lui confiance. Il n'a pas dit son dernier mot. Il y a trois types de souffrance. Premier type de souffrance, c'est la souffrance qui est due à mon propre péché. C'est le premier type de souffrance. Je me souviens, il y a quelques années, on m'a invité et vous avez compris, j'aime bien les desserts. Puis on m'a offert une belle part de tiramisu. Puis quand il y avait un deuxième tour, on m'a donné une deuxième belle part de tiramisu. Puis tout d'un coup, ils disent, ah mais il n'y en a plus beaucoup, il faut... Ouais, j'ai pris une troisième part de tiramisu, il fallait bien se dévouer. Et quand, alors qu'elle allait ranger, elle se rend compte qu'il reste une dernière part. Dire en tant que pasteur, c'est difficile. Hein, de... Je vous raconte vraiment des histoires. Donc j'ai mangé cette quatrième part. Puis tout allait bien, on a rigolé, tout ça. Puis au moment où je rentre, des choses que j'explique pas dans ma vie, au moment où je ferme la porte, c'est comme si mon ventre me dit, maintenant, c'est entre toi et moi. Je vais vous épargner plein de détails, hein. Rassurez-vous, mais j'étais malade. J'étais malade comme un chien. Je veux dire, j'étais malade. Genre horriblement malade. Vraiment, vraiment malade. Et moi, je suis du genre, quand je suis malade, je suis pas du genre à prendre des médicaments. Je suis du genre vraiment à prier. Et alors, je me mets à prier. Et tout d'un coup, Dieu me dit, mais ah, ça t'intéresse ce que j'ai à dire maintenant. Quand t'es devant les parts de tiramisu, là, tu t'en fous de ma présence. Mais maintenant que t'as besoin de moi, ah, il me dit, mais et vraiment, je peux pas vous l'expliquer. Des fois, je vous dis, vous dites, mais Dieu lui parle comme ça. Je peux pas l'expliquer. Comme un père qui me dit, mais gars, si tu continues de manger comme ça, tu vas avoir des vrais problèmes. Je te permets d'être malade parce que je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu changes ta manière de vivre. Tu peux pas l'imaginer. J'étais malade, mais je me suis jamais aussi autant aimé qu'à ce moment-là. Je me suis senti aimé d'un père qui m'a corrigé, mais parce qu'il veut mon bien, parce qu'il veut que je change ma manière de vivre. Dieu permet la souffrance à cause de nos péchés. Si tu lis en Corinthiens 11, et vous lisez en général assez régulièrement à la Sainte Seine, il dit, c'est à cause que vous prenez les choses à la légère, que beaucoup sont malades et que plusieurs sont morts. C'est-à-dire, Dieu prend très au sérieux nos péchés. Et il y a des conséquences. Et que parfois, ces conséquences sont dramatiques. Mais les conséquences sont un avertisseur pour vous dire, les gars, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de regarder la femme de ton voisin. C'est juste pas une bonne idée. Parce qu'il va y avoir des souffrances qui vont s'opérer dans ton couple, dans tes enfants. Gaffe, fais pas n'importe quoi. Et Dieu aimerait nous avertir. Et pour cela, il permet des souffrances. Deuxième cause de souffrance, c'est le péché des autres. Malheureusement, Shéna, elle a subi le péché de son père. Elle a souffert. Et la seule chose qu'on peut faire face à la souffrance qu'on subit, c'est de pardonner. Dans le premier cas, je dois demander pardon. Dans le deuxième cas, je dois décider de pardonner. C'est le seul moyen de sortir de cette souffrance-là. Oui, nous subissons les péchés des autres. Nous vivons toutes sortes de conséquences du péché des autres. Mais j'aimerais te dire
Il faut que ça te rappelle qu'à chaque fois que tu pèches, tu fais souffrir quelqu'un d'autre aussi. Si tu subis les conséquences du péché des autres, ça veut dire que les autres subissent la conséquence de ton péché. Et nous devons apprendre à pardonner. Et quand je dis nous devons apprendre à pardonner, c'est pas un nous devons, c'est pas un ordre. Et c'est un appel au secours. De dire, gars, c'est le seul moyen d'être libéré. C'est d'apprendre à pardonner. D'apprendre à relâcher les choses. À relâcher les choses. Maintenant, malheureusement, les conséquences, on ne les mesure pas toujours, n'est-ce pas? Peut-être si tu peux lancer la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2. Il y a un côté où je me permets d'insister, après vous allez voir, on va arriver sur la partie encourageante. Et je me permets d'insister.
Combien de temps?
Tu peux lancer, c'est très bien.
Combien de temps allons-nous continuer? Continuer à croire que 100 blessés graves par jour, ça n'est pas si grave que ça. Continuer à croire que réparer les corps peut suffire à réparer les vies. Continuer à croire que ceux qui survivent pourront revivre comme avant. Continuer à croire qu'un accident de la route ne dure qu'une seconde, alors qu'il peut durer toute une vie. Continuer à croire que derrière chaque corps blessé, il n'y a qu'une seule vie blessée. Continuer à croire que les accidents de la route sont une fatalité, alors que c'est à nous d'agir pour les éviter. Rendre la route plus sûre ne dépend que de nous. Merci à Marius, Sébastien,
merci.
Cyril, Alan, Maryse.
Je me permets d'insister un peu là-dessus. Parce que, comme je vous l'ai dit, je voyage beaucoup. Et j'ai peur qu'on a... On a de plus en plus de mal à vraiment être sérieux avec le péché. On a de plus en plus de mal. C'est comme si on justifie nos péchés. On justifie beaucoup de choses. Les amis, tellement de souffrances sont dues juste à nos propres choix. Et Dieu aimerait réellement nous parler, nous aider à changer de vie. Vraiment. Je vois des milliers de jeunes, tellement de souffrances, parce que leurs parents ne leur disent jamais je t'aime, parce que leurs parents divorcent, tellement de souffrances, tellement d'histoires d'abus, tellement de choses. Si seulement, et je vois des jeunes d'enfants chrétiens, je veux dire, vraiment, nous ne sommes pas épargnés. Et nous faisons beaucoup souffrir les gens autour de nous, à cause de nos péchés. Et nous devons nous repentir pour ça. Vraiment. S'il y a un péché vraiment dans ta vie qui est là, règle-le, s'il te plaît. Je t'encourage, je te supplie de le régler. Dieu pardonne, vraiment. Il efface nos péchés. Mais sois sérieux avec le péché. S'il te plaît. Sinon, tu vas avoir les conséquences. Mais les gens autour de toi auront des conséquences. Je vais sur ma dernière partie. C'est que, malheureusement, dans certains types d'églises, dès que quelqu'un est malade, on dit, mais il y a un péché dans ta vie. Et je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Job, Dieu dit, c'est l'homme le plus juste de la planète. S'il avait eu un péché, il l'aurait dit, Dieu. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Mais Job, pourtant, a subi. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Et il est tombé malade. Pourtant, la Bible dit qu'il était juste. Donc il y a des moments où nous subissons la souffrance. Et on ne comprend pas pourquoi. J'appellerais ça, comprenez bien avec des guillemets, hein, et la fatalité. Il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas. C'est comme si c'était la fatalité. C'est comme si finalement ça venait de nulle part. Et la seule chose que tu peux faire dans ces moments-là, c'est faire confiance à Dieu. Que s'il permet quelque chose, il va en faire ressortir quelque chose de bon. Souvenez Job ce qu'il a dit à la fin de sa vie. C'est-à-dire, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. C'est comme si Job, au travers de cette souffrance, va découvrir quelque chose de Dieu. Il va découvrir une facette de Dieu. Je parlais dernièrement avec une dame de l'église qui a son troisième cancer. Elle est complètement chauve. Troisième cancer. Mais son mari a eu trois cancers aussi. Ses enfants, l'un a toutes sortes de difficultés, l'autre a failli mourir. Elle s'appelle Iris, c'est un modèle, vraiment. Mais la dernière fois que j'ai vu Iris, elle me dit, Thibaut, ma relation avec Dieu, tu ne peux pas la comprendre. J'ai découvert Dieu dans une intimité, dans une profondeur. J'ai découvert un ami. J'ai découvert Dieu d'une manière tellement puissante. Et elle m'en parlait, mais excusez-moi, mais elle m'en parlait avec un tel regard. Presque j'avais envie d'être à sa place. C'est bizarre de dire ça, hein? Mais comme si dans sa souffrance, elle avait découvert quelque chose de Dieu. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez Johnny Erickson Tada. Enfin, pas regarder toute la vidéo, mais j'aimerais juste que vous puissiez voir son visage. C'est la vidéo 3. On va juste passer rapidement. Juste parce que Johnny Erickson Tada, elle a créé des bouquins énormes. Je ne sais pas s'ils sont à la librairie là. Mais c'est extraordinaire. Il faut que vous lisiez ces bouquins. Johnny Erickson Tada, dès que tu vois sa photo, si tu peux faire pause, ce serait le top. Ouais, dès que tu vois sa photo à elle, si ça va, je te remercie. Johnny Erickson Tada, à l'âge de 16 ans, était championne de ski. Et elle a été plongée, elle a plongé finalement dans une rivière, sauf qu'il n'y avait quasiment pas d'eau. Et elle est devenue quadraplégique. Elle est devenue quadraplégique et... Peut-être, si tu peux l'avancer, sinon, là, il vous explique un peu ce qui arrive. Voilà, tu peux faire pause. Génial. Et donc, elle est venue quadraplégique. Et sa vie a été bouleversée, tout ça. Et puis, un jour, ils l'ont amenée dans une réunion comme celle-là. Et le message du jour, c'est en toutes circonstances, soyez reconnaissant à Dieu. Et elle va s'énerver. Elle va dire, mais c'est quoi votre délire de chrétien bizarre? Vraiment énervée. De dire, mais c'est n'importe quoi. Mais alors qu'elle rentre chez elle, cette phrase-là revient. Soyez reconnaissant en toutes choses, soyez reconnaissant en toutes choses, soyez reconnaissant en toutes choses. Pas dormi de la nuit. Le matin, elle a décidé de dire, Dieu, je ne comprends pas, mais je veux faire le choix d'être reconnaissante. Je veux te donner ma vie. Tu peux lire son histoire. C'est extraordinaire. Tu vas chialer. Elle parcourt le monde entier, elle a pu prêcher à l'ONU, elle a pu prêcher dans des endroits incroyables. Mais quand tu l'entends parler, quand tu l'entends témoigner, et tu te dis, mais moi je veux cette foi-là. Moi je veux cet amour qu'elle a de Dieu. Moi je veux ce courage, je veux dire l'audace. Elle travaille pour aider les paralysés partout dans le monde. Elle fait une œuvre pour Dieu extraordinaire. Pourtant elle a eu plusieurs cancers en plus de ça, des tumeurs. Tu lis son histoire. C'est fou! Comme si finalement dans la souffrance, Dieu pouvait se révéler. Je termine. Je termine avec la parole de Dieu. Parce que j'imagine bien que pour vous, c'est compliqué encore. Regardez ce que la Bible dit, clairement. 1 Pierre 2, verset 19. Si t'arrives à afficher ça, c'est génial. J'aimerais vraiment que vous puissiez lire ça avec moi, comprendre, et je vous amènerai vraiment à méditer ces passages. J'en ai sélectionné, j'en ai passé d'autres, mais ces passages-là peuvent littéralement changer nos vies. 2 Pierre 2, verset 19, on va lire jusque 21. 2 Pierre 2, 19 à 21. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est une grâce. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. On m'a demandé de parler d'Amazing Grace. Je sais pas si je peux faire mieux que ça. Verset 21. Et c'est à cela... Oh, ça c'est peut-être plus dur. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. La souffrance qui n'est pas due à mon péché, c'est une grâce. Voilà. Jacques 1, versets 2 à 4. Et on terminera après avec Jacques 5, versets 7 à 8. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça veut dire que les difficultés sont en train de me parfaire. Les difficultés sont en train de me rendre plus saint, sont en train de me rendre plus humble. La maladie me rend humble, me rend dépendant. La maladie me rappelle que je ne suis que poussière. La maladie me rappelle qu'il faut que je prépare mon éternité. La maladie, finalement, me rappelle que par moi-même, je ne contrôle pas tout. La maladie essaye de me parler. Elle essaie de me dire quelque chose, de me mener quelque part. Et vraiment, avec beaucoup de respect, je sais qu'il y a des gens qui souffrent. Vraiment, et je vous promets, j'ai honte de vous parler comme ça, mais je crois réellement ce que la Bible dit. Je crois réellement que Dieu veut utiliser votre maladie, votre souffrance pour vous mener quelque part qui est bon pour vous. Ne vous rebellez pas. Par pitié, ne vous plaignez pas. Et confiez-vous en Dieu. Demandez à Dieu réellement de changer votre souffrance en bien, en quelque chose de bon. Qu'il puisse vous parler, que vous puissiez connaître plus dans votre souffrance. Je termine avec ce dernier texte. Comme je dis, je termine, après je vous donnerai un témoignage. Pendant que, peut-être, Onésime, tu peux déjà venir. Tu peux préparer la photo, la toute première photo, la photo zéro. Mais lisons Jacques 5, verset 7 à 11. Ça, le témoignage, et après on va prier. Jacques 5, verset 7 à 11, c'est peut-être le texte le plus parlant, frappant. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'ils aient reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Car voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Écoutez bien, car le Seigneur est plein de grâce et de compassion. Car le Seigneur est plein de grâce et de compassion. Il y a quelques années de ça, on m'a appelé Arletty. Plutôt, ses enfants m'ont appelé. Ça va s'afficher à l'écran. Arletty est maman de 8 enfants. Les enfants viennent chez nous à l'église, elle va dans une autre église. Les enfants m'appellent en disant « Arletty est menée à l'hôpital, elle a des problèmes de respiration et c'est vraiment grave. » Je suis allé la voir à l'hôpital, j'ai prié au nom de Jésus. Et tout d'un coup, d'apprendre le lendemain qu'elle a dû se faire opérer en urgence et qu'elle est dans le coma. Fais quelque chose comme tu pries et que la suite de la prière, c'est que c'est pire. Je suis allé à l'hôpital, prier pour elle. Elle est dans le coma. Prier de tout mon cœur. Je repars chez moi. J'amène l'église à prier pour elle. On prie. Quand je retourne le lendemain, je suis le premier arrivé. La famille n'est pas encore venue. Le médecin vient me voir et me dit « C'est fini. Son pronostic vital est engagé. Il n'y a plus d'espoir. » Je suis le premier à me prendre ça dans la face. 8 enfants. Et je comprends pas. J'ai prié. Je comprends pas. Et vraiment, je comprends que des fois, tu comprends pas. S'il y a des moments où on ne comprend pas. Et je rentre dans la chambre et elle est toute bleue. Ce que je vois, je dis que c'est fini. Ce que je ressens, les paroles du médecin résonnent dans ma tête. Et je crie à Dieu, je pleure, je comprends pas, je pleure. C'est comme si je veux avoir de l'espérance, mais j'y arrive pas. Puis tout d'un coup, je peux pas. C'est comme si j'entends une voix au fond de moi qui me dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais placer mes anges autour d'elle. Je vais prendre soin d'elle. Mais c'est dur de croire ça. Tu dis, c'est mon imagination, tu dis, tu regardes à ce que tu vois, tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, j'ai décidé d'y croire. Alors, en sortant de l'hôpital, j'appelle les enfants, je leur annonce la nouvelle de ce que les médecins ont dit. Et à la fin du coup de téléphone, je leur dis, écoutez, voilà ce que j'ai l'impression que Dieu m'a dit. Qu'il a mis ses anges. Qui va prendre soin d'elle. C'est ce que les enfants m'ont répondu. Ils m'ont dit, Thibaut, ne t'inquiète pas, on sait que Dieu va la guérir. On sait que Dieu va la guérir. Alors que le lendemain, je reviens à l'hôpital, les médecins disent, c'est incroyable. Elle a arrêté d'être instable. Il y a peut-être un petit espoir. Le lendemain, je reviens. Tout d'un coup, elle recommence à respirer par elle-même. Le lendemain, elle revient. Et tous les jours, comme ça, elle est de mieux en mieux. Aujourd'hui, elle est parfaitement guérie. Complètement guérie. Et alors que je lui parlais, la dernière fois que je lui ai parlé, elle me disait, tu sais, ma vie a changé. Ce que j'ai vécu là m'a fait comprendre que je devais remettre les priorités au bon endroit. Et en souriant, elle me dit, tu sais, j'avais fait une prière. J'avais demandé à Dieu de m'aider à maigrir. Regarde-moi, j'ai perdu 15 kilos. Les amis, je ne peux pas vous promettre que vous allez tous repartir guéris. Je ne peux pas vous promettre. Si Dieu ne me le dit pas, je ne me permettrai pas de le dire. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour ou l'autre, au bon moment, tu seras guéri. Tu seras guéri ou sur cette terre, ou le jour où tu rentres dans le ciel. Un jour ou l'autre, tu seras guéri. Je ne peux pas te promettre une vie sans souffrance. Mais ce que je peux te promettre, c'est que Dieu te sera fidèle. Et que dans la souffrance, il saura te soutenir. Jésus lui-même, alors qu'on ferme nos yeux, Jésus lui-même a souffert. Dans le jardin de Gethsémané, il a souffert de l'angoisse. Il suait des grumeaux de sang. Il va dire, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Éloigne de moi cette coupe, mais non, pas ma volonté, mais la tienne. Je sais que plusieurs sont là et vous dites, mais moi, je ne veux plus souffrir. Éloigne de moi cette souffrance. J'en ai marre, j'en peux plus. J'aurais t'invité cet après-midi. Rajoutez cette phrase qui dit non pas ma volonté mais la tienne. Tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Aujourd'hui je le comprends pas, je le vois pas, je souffre, c'est trop dur. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. S'il y a des gens qui sont là et qui souffrent, j'aimerais tellement prier pour vous. Le temps me manque pour prendre du temps avec chacun pour vous entourer. Mais puis-je juste vous demander, avec beaucoup de courage, de vous lever à vos places. Parce que j'aimerais prier pour vous. J'aimerais pouvoir vous regarder. Prier avec beaucoup, avec toute la compassion que Dieu me permet d'avoir. S'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, s'il y a quelqu'un qui souffre, j'aimerais vraiment prier pour toi. Puis-je t'inviter à te lever. Souffle dans ton cœur, souffle dans ton âme, dans tes pensées, dans ton corps. Juste t'inviter à te lever. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris nos souffrances, il a pris nos maladies à la croix. Et ce Dieu qui est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il est proche de ceux qui souffrent. Et il aimerait prendre du temps avec nous pour nous visiter. Si tu es là et que tu aimerais réellement qu'il te visite, qu'il te fasse du bien, si tu as ce peu de foi de dire je veux croire que Dieu guérit, je veux lui faire confiance. Alors je t'invite à te lever. Papa, merci pour mes bien-aimés. Merci pour mes bien-aimés qui souffrent. Toi, tu les connais. Tu n'es pas ce Dieu qui juge la souffrance. Tu es ce Dieu qui compatit à la souffrance. Qui comprend la souffrance mieux que personne. Tu as souffert comme personne. Et je prie, Père, que tu puisses entourer avec tes bras d'amour chaque personne dans ce lieu. Au nom de Jésus, que tu puisses répandre par ton esprit l'amour du Père en eux. Que tu puisses répandre du courage, de la force, mais de la foi. Parce que oui, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous croyons que ta parole est la vérité. Et ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ainsi, je commande à toute maladie de quitter les corps au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui peut guérir, ce n'est pas une prière, c'est toi seul. C'est toi seul qui peux guérir. C'est toi seul qui peux libérer, restaurer. C'est toi seul qui peux entourer ceux qui ont été abusés, ceux qui souffrent à l'intérieur d'eux. Toutes sortes de dépressions, Seigneur, vraiment, tu guéris mes amis qui sont dans la dépression. Tu guéris mes amis qui ont toutes sortes de difficultés, de souffrances relationnelles dans leur famille. Au nom de Jésus, secours, sauve. Fais du bien à chacun, je t'en supplie. Fais du bien à chacun, fais du bien à chacun. Seigneur, vraiment, s'il te plaît, que ce temps dans le calme soit comme un temps de repos, un temps de courage, un temps où chacun accepte de te faire confiance. Seigneur, tu répares. Alors peut-être que la musique va s'arrêter. Seigneur, je te prie, qu'au milieu de la tempête, tu puisses nous apporter du réconfort. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Force calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverse.
traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là.
Est-ce que je peux vous inviter tous à vous lever? Je vais terminer en priant, peut-être inviter la chorale à me rejoindre, à prendre la place. J'aimerais terminer en nous encourageant à prendre une décision. La décision de renoncer à ce cœur. Mais de prendre la décision de dire je veux choisir de faire confiance à Dieu. Il y aura des souffrances. Suivre Jésus, c'est accepter qu'il y aura des souffrances. Mais de prendre vraiment cette décision. De dire, je ne veux pas me plaindre. Je veux vraiment te faire confiance, Seigneur. Yes, vous êtes d'accord? On va prier ensemble pour ça. Alléluia. Seigneur, vraiment merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta parole. Je prie, Père, que tu nous aides, Seigneur, à ne pas murmurer, à ne pas nous plaindre. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance envers et contre tout. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance. Je te prie, Seigneur, que s'il y a une seule personne qui a réalisé cet après-midi que, finalement, sa souffrance est liée à un péché qu'il n'a pas réglé, je te prie de lui donner le courage de régler son péché, de le confesser, de demander pardon, de se repentir, afin que réellement, Seigneur, nos souffrances ne soient pas liées à nous-mêmes, à nos choix, mais que nous puissions, Seigneur Jésus, vivre le plus sainement possible, selon ta sainte sainteté. Merci, Père, de bénir chacun, de faire du bien à chacun. Amen.